Il y avait un jour un enfant qui, un peu après sa naissance, avait reçu de son parrain un gros chien blanc. Au début, l'animal prenait peu de place. Pourtant, dès que l'enfant fut un peu plus dégourdi, il en fit son inséparable. Avec le temps, les parents n'en pouvaient plus. Le chien était devenu un maître menaçant partout où se retrouvait l'enfant. Plus ce dernier grandissait, plus cela était insupportable. Les complices étaient devenus souverains. Si les parents intervenaient, le chien hurlait pendant que l'enfant tapait du pied et insultait. Un soir, ils allèrent jusqu'à menacer si les parents ne répondaient pas à leurs exigences. Harassé, le père fit savoir à son épouse qu'il prendrait les grands moyens si cette folie ne s'arrêtait pas. Cela avait trop duré et la vie devenait impossible. Sa femme, hésitante, se demandait ce que ferait son fils sans son superbe chien blanc. Sans mot dire, le père concocta une potion dangereuse qu'il plaça dans l'auge du gros monstre gourmand. Le lendemain matin, le chien se lamentait, l'enfant pleurait, la mère n'arrivait plus à se placer entre les deux. C'était le cauchemar dans la maison. « Allons chez le vétérinaire, » proposa le père. « Peut-être peut-il guérir ton chien ?» Le jeune garçon accéda à la demande. « Ton chien va mourir, » dit le professionnel. « Vaudrait mieux le délivrer de ses souffrances maintenant. » « Je sais que c'est une expérience difficile pour toi, mais je connais un fourreur qui te fabriquera un chapeau et une veste à même sa jolie toison, si tes parents consentent, bien entendu. » « Peu importe les coûts, » se dit le père, « la paix n'a pas de prix. » Et chose fut faite. C'est avec ses vêtements de peau de chien, qui le distinguaient des autres, que l'enfant grandit. Il n'arrivait jamais à s'en départir, jusqu'à ce qu'un jour d'été, où il décida d'aller se rafraîchir en montagne, il croisa un vieil homme. « Tu t'attaches à ta peau, » murmura ce dernier en souriant. « Crains-tu de monter trop léger ?» Le jeune reçut cette remarque comme un coup de foudre, et sans répondre, il s'éloigna. Il retira son chapeau et sa veste, qu'il déposa là devant lui. « Je suis détraqué, obsédé, névrosé, » se dit-il. « Comment me délivrer de cette obsession ?» Prestement, il se leva et courut pour retrouver le vieil homme qui l'attendait quelques mètres plus haut. « Que faut-il faire pour monter léger ?» marmonna maladroitement le jeune homme. « Donne-moi ta veste et ton chapeau. C'est simple en apparence. Sache pourtant que tu ne seras plus jamais vu de la même manière et que tu ne pourras pas couper les langues de ceux qui médiront. Non plus que cela n'empêchera ton gros chien de hurler dans tes rêves. Garde ta vieille peau ou deviens maître. »
Maintenant, reprenons cette légende du début, tu veux bien ? À sa naissance, mais pour peu de temps, l'enfant est vierge. Rapidement et sournoisement, le parrain égo l'honore d'un traité de division afin que le gros chien blanc permette à l'enfant d'imposer sa particularité. Au début, tout s'accomplit sournoisement et l'enfant est davantage perçu pour ses rires et ses finesses avant que du gros chien n'apparaisse les crocs. Sa tâche est de défendre la marque distinctive avec laquelle l'enfant devra combattre toute sa vie. Cependant, l'enfant n'a pas comme origine le rêve. L'esprit divin veille et propose Jésus comme vétérinaire. Ce veilleur particulier connaît d'expérience la partie empoisonnée de l'animal qui rage et qui menace. Il peut donc proposer des alternatives, soit selon un choix déjà préétabli par l'enfant lui-même avant sa venue, soit d'après le degré d'éveil du rêveur et son acceptation d'évoluer. À la longue, une peau de chien qui vous corse la tête et le cœur peut devenir incommodante, n'est-ce pas ? Pourtant, l'homme se complaît dans les aspects déguisés de ce qu'il croit être lui-même. Tantôt il se cramponne aux artifices qui rehaussent son apparente supériorité, il amasse des monceaux d'éloges pour se rassurer, il se place bien au-dessus de l'étranger, lui démontrant sa petitesse, son impuissance et la chance qu'il a d'être sauvé par lui. À d'autres moments, il se saoulera de peur, de haine, de culpabilité, de colère et d'attaque. Par tous ses moyens et ses fuites, il se découvrira si profondément meurtri qu'il commencera à crier au secours. sa supposée particularité, son identité magique, sa façade mensongère sont à la mesure de la blessure qu'il s'impose. Crier au secours ne règle rien du tout. Cependant, cela s'avère un appel non négligeable. L'homme de la montagne en connaît déjà l'écho. Sa présence sera inaudible d'abord. En préambule, elle commencera par te proposer l'abandon de ta peau de vie de chien qui te sera devenue si insupportable. Voudras-tu la troquer en faveur de ta nouvelle gestation? Il n'en tient qu'à toi seul. Sois vigilante et méfie-toi du parrain. Ô toi, fille de lumière, convoque à grands cris ton réveil. Réanime l'humanité mourante afin qu'elle entende l'écho de ma vibration toute puissante, qu'elle vous soulève jusqu'à cet autre monde où elle tente de vous aspirer sur les rives de la vérité. Loin de vous à jamais, toutes ces potions magiques qui, comme des somnifères, vous ont gardé si loin de l'unique paix et de cette puissance créatrice infinie. Convoque-moi à ta table. J'ai des milliers de révélations à te soumettre dans un élan d'amour ultime.
Dans un étrange pays aux rives mystérieuses, un maître de la plus haute notoriété fut dépêché à la suite d'une demande urgente de quelques résidents lucides et responsables. Tous les gens de ce même pays vivaient dans un seul et même édifice. Ce bâtiment énorme était composé de 7 étages, très large à la base et de plus en plus étroit à mesure qu'il progressait vers le haut. Les citoyens qui habitaient le second sous-sol étaient sourds, muets, aveugles. Ils émettaient des sons rauques et grinçants. À qui mieux mieux, ils s'arrachaient le pain, se heurtaient les uns les autres et leur état d'esprit les faisait crier de rage. On eût dit l'enfer de l'enfer. C'était presque aussi bizarre à l'étage suivant. L'espace sombre, nauséabond et bruyant, permettait quand même des allées et venues plus faciles, puisque les habitants jouissaient de l'un ou l'autre de leur sens. De plus, il y avait 2 petits hublots hermétiquement clos, mais qui laissaient quand même passer des filets de lumière. Indépendamment de ces piètres avantages, on pouvait toutefois y entendre des bruits de chaînes, des hurlements, des insultes, des attaques, des affronts de toutes sortes, des pleurs, des appels au secours. Le désespoir et la détresse semblaient sans solution. Au moins à l'étage suivant, on jouissait d'air et de lumière, même si les portes, verrouillées et scellées du dehors, ne permettaient aucune fuite. Ce qui rendait la vie invivable à ce niveau reposait sur 2 éléments principaux. La proximité due à la surpopulation, ce qui engendrait de la haine, de la colère et une constante, malsaine et dévorante cupidité. Pire encore était le degré d'ignorance favorisant la haine et un mépris permanent. Dans tous les propos quotidiens se retrouvaient les plus ignobles insanités. Au 4e étage, les va-et-vient de chaque jour, accélérés à outrance, permettaient à ces gens de plus grande culture de pouvoir quand même échanger de temps à autre. La cupidité ne donnait pas sa place. Le maître sans conteste de cet étage était l'argent, revêtu de son habit de pouvoir. Souvent sous des couverts de politesse et de courtoisie, se jouaient les pires magouilles, les plus abominables manœuvres. Des combinaisons et transactions douteuses faisaient partie du jeu quotidien. Les pauvres travaillaient pour des salaires de famine, tandis que les riches se gorgeaient jusqu'à en avoir la nausée, et les hommes politiques fermaient les yeux sur ces injustes et visibles écarts. À l'étage suivant, l'atmosphère était tout autre. On eût dit une véritable cité en voie d'atteindre l'équilibre. Les gens de bonne volonté partageaient volontiers leurs connaissances. Tout en demeurant chacun responsable de soi-même, ils s'échangeaient toutes sortes de services. Par exemple, le cordonnier acceptait volontiers de réparer le soulier de son voisin pendant que ce dernier labourait son jardin. Le restaurateur, à son tour, nourrissait volontiers la ménagère qui entretenait sa maison. ces formes d'échange étaient quotidiennes. Si des conflits se produisaient, rassemblés, ils cherchaient de justes solutions et tâchaient d'atteindre un équilibre à même de satisfaire chacun. Droiture et justesse étaient la devise du groupe et chacun y trouvait son compte. Au sixième étage, les citoyens se faisaient rares. Seule l'harmonie régnait sur ce palier. Chacun habitait dans le silence de son espace intérieur, libre d'attache, d'individualité, de réputation et de tous ses fardeaux reliés à la forme. Joyeux, ils partageaient l'allégresse de la libération. C'est à cet étage que le maître décida de s'arrêter. Il demanda qu'on aille quérir les quelques instructeurs qui habitaient le sommet de la tour. Une fois le rassemblement complété, il leur dit « L'heure de la grande coalition est venue. Je propose à chacun d'entre vous une alliance concertée ayant pour but d'entonner l'hymne de la paix. Cela suppose entre nous une force de cohésion indéniable. Je vous demande alors de parcourir la laborieuse descente à travers tous les étages inférieurs, munis de la puissance de votre certitude en mon amour. Ne craignez surtout pas cette descente. Même si elle vous semble astreignante, je vous y accompagne. »
Il y avait un jour des gens qui habitaient un village où le chef, élu comme unique autorité, était un véritable despote. Partout, il avait fait installer des caméras de surveillance, il avait fixé des horaires et des normes sévères qui ne devaient être transgressées sous aucune considération. Il émettait jusqu'à 3 avertissements aux fautifs, après quoi ce dernier était puni sur la place publique. Tous les membres du village devaient obligatoirement être présents au moment du châtiment, et même les enfants, indépendamment de leur âge. « Il suffirait de nous rassembler et d'ourdir une stratégie, » dit un homme à son épouse. « C'est impossible que nos enfants doivent plus longtemps subir pareil spectacle de haine. » La peur est un monstre aussi puissant que le dictateur. Cela doit cesser. Quelques jours plus tard, ce père de famille s'adressa à une des sentinelles armées chargées de la surveillance de jour. « J'aimerais que vous me confirmiez si l'idée un peu originale que je viens d'avoir peut être applicable. J'ai su que le mois prochain, ce sera l'anniversaire de notre chef. Nous aimerions organiser une fête en son honneur, mais vu nos horaires de travail et celles du couvre-feu, je me demande comment nous pourrions nous organiser. Croyez-vous que ce soit une bonne idée, et dites-moi comment nous pourrions procéder si cela vous semble juste. « Je vais y penser et vous en reparlerai, » dit-il. « Revenez demain à la même heure. » En apprenant que le peuple désirait le glorifier, le grand chef fut si fortement honoré qu'il ordonna que pour une période de 1 mois, les caméras de surveillance soient recouvertes et le couvre-feu levé. Le jour venu, au son des fanfares, tous les citoyens endimanchés transportant couronnes, fleurs et cadeaux se présentèrent à la demeure du chef. Ce dernier, gonflé d'orgueil, paré d'un pouvoir dédaigneux et arrogant, ne vit pas venir ce qui suivit. Le jeune père de famille se dressa devant lui et lui dit « Monsieur, partez sur le champ et ne revenez plus jamais ici. » Le chef, qui s'attendait à un discours d'éloge, visiblement ébranlé, répondit illico. « Non, je ne partirai jamais. » Sur un ton plus élevé, l'homme reprit. « Monsieur, partez sur le champ et ne revenez plus jamais ici. » Le chef se leva, interpella ses gardes et ses fidèles serviteurs. Sidéré, personne ne bougea. Et le jeune père de famille répéta son commandement avec une telle force que le tortionnaire, mort de peur, prit ses jambes à son cou et disparut à l'horizon. Momifiée, la foule resta figée un bon moment. La voix d'un jeune homme s'éleva, criant « Plus jamais nous n'entendrons le bruit maudit du fouet s'abattre sur le dos de nos parents !» Ces paroles déclenchèrent un torrent d'applaudissements et la foule, prise de délire, se mit à danser et à chanter. On souleva le jeune père de famille dans les airs, jetant sur lui une pluie de fleurs et de bijoux, le proclamant comme nouveau chef du pays. Il demanda qu'on cesse ce cirque et, déposé sur le sol, il prit courageusement la parole. « Nous avons chassé le tortionnaire, moi par ma parole, vous par votre silence approbateur. Il reviendra pourtant si nous n'avons pas compris, à partir de cette expérience, que nous sommes chacun maîtres de nous-mêmes. Pour cette raison, je ne serai pas votre chef. Nous pouvons travailler ensemble, accomplissant chacun notre part, nous consultant réciproquement et apposant à tour de rôle notre signature au contrat d'unité. Le maître qui vient de nous quitter n'est que l'image de la dureté dont nous sommes tous porteurs à notre endroit. Devenir maître de soi-même, libre de jugement, de haine, de peur et de culpabilité, équivaut à construire le royaume vers lequel notre regard est tourné depuis l'enfance. » Un silence de paix coulait sur la foule comme un arôme bienfaisant, jusqu'à ce qu'un enfant entame l'hymne à l'amour. Et la légende dit que la vibration de cet hymne retentit dans le cœur de celui qui se délivre de tout jugement.
Et toi, qui acceptes de descendre tous tes étages jusqu'au second sous-sol avec un courage et une vaillance remarquables, toi qui consens à te voir dans le rétroviseur de ta psyché pour te délivrer de l'ensemble des phénomènes de ta personnalité, toi qui te reconnais enfermé dans une cage, baignant dans l'acide destructeur de la peur, de l'attaque, de la culpabilité, de la haine et de cette souffrance qui broie sans fin votre monde. Toi, oui, toi, donne-moi l'entièreté de cette illusion pour que j'en délivre l'œil et le cœur collectif. Donne-moi consciemment cette folie, cette démence, sans ne l'attribuer à aucun de tes frères. Reconnais que ton monde est à l'agonie dans le rêve et que ta descente volontaire vous délivre un à un jusqu'à ce que vous vous retrouviez enfin au cœur du grand soleil que vous n'avez jamais quitté. Si seulement un seul instant il vous était possible de soupçonner l'immensité de mon amour, il n'y aurait plus pour toi un moment de repos jusqu'à ce que tu aies atteint les rives de l'éveil. Maintenant, j'augmente le flot de ma tendresse jusqu'à toi, qui commence à saisir le sens de mon appel. Je voudrais te parler de partage, de communion véritable, de ce lieu au-dedans de toi où, avec tes frères consentants, tu viens déposer devant moi le lourd fardeau de la culpabilité. Si tu pouvais seulement présumer de la joie que tu apportes au monde en posant de pareils gestes, tu ne reculerais devant aucun effort pour traquer le fol égo malade qui répand sa terreur comme un flot de folie. Je reconnais l'effort exigeant que cela suppose pour toi. N'oublie jamais en aucun cas que ma puissance te précède et te suit dès que ta volonté est de te délivrer de ce mensonge. Un parent aimant laissera-t-il son jeune enfant faire ses premiers pas au beau milieu d'un boulevard bondé de véhicules? Je vous ai vus ensemble, en train de démêler les chaînes du piège tendu par le faussaire. Ma tendresse s'est inclinée jusqu'à vous pour vous envelopper de ma puissance. Trois fois libre, vous repartez, affranchi et renforcé de mon soutien qui s'accentue. Celui qui lessive son regard augmente sa joie et se réjouit de m'apercevoir en ses frères. Tu dois dénouer l'état de servitude sans te blesser pour autant. Ainsi, tu peux entrer plus facilement dans le refuge que j'ai placé sur ton parcours pour que tu puisses te reposer avant de reprendre ta marche. Tu t'abreuveras alors à la divine paix dont je le gratifie. Tu me donnes un centime, je t'en attribue 1 000 000. Si un jour, à force de visiter tes caves débordantes de mensonges collectifs, tu éprouves lassitude, viens vers moi. Je t'aiderai dans la mesure de ta sincérité. Tu sentiras les fardeaux tomber de tes épaules et les écailles de tes yeux. Devancer, c'est déblayer la route pour plusieurs. C'est également rendre ton rire plus facile et plus enivrant le vin de ma tendresse. Je suis avec toi. Enivre-toi de mon amour. je voudrais te parler des multiples intrigues tramées par l'ego pour te dérober à mon influence. Son intention étant toujours de te garder, sous couvert de liberté, rivé au piège du faux pouvoir, un piège alléchant, où tu es vraisemblablement placé en évidence au sommet du savoir, de l'avoir, du paraître, de la célébrité, tout autant que de leurs opposés, l'ignorance, la pauvreté, la faiblesse, l'impuissance et la liste s'étire. De bien minimes sommets pourtant. Un trône sur un grain de sable n'a rien de trop remarquable, ne trouves-tu pas? Pourtant, il faut constamment un trône à celui qui est séparé. Cela accentue les divergences qui s'affichent avec la mère, le père, le frère, la sœur, le professeur, les amis, les patrons, le conjoint, et allonge la liste à ta guise. Vois comment il n'est personne que tu observes qui te soit identique. Plus petit, plus jeune, plus grand, plus riche, plus beau, plus instruit, et vas-y. Ce piège de l'emballage est né de la division. Il englobe et nourrit tous les autres traquenards responsables de ta souffrance. Différencie-toi ou meurs, rugit l'ego. Tant et aussi longtemps que tu n'as pas visiblement repéré cette souricière, tu es forcément piégé. Alors, cela te donne toutes les raisons du monde pour accuser ou jalouser l'autre en raison des différences qui vous opposent. Race, religion, âge, fonction, richesse, statut, autant d'agents destructeurs. Regarde partout. Dis-moi où ton monde t'offre un spectacle différent de ce que je viens de te décrire. Observe, étudie, constate et saisis où je cherche à te guider. Comprends-tu? Il n'y a pas une seule souffrance qui n'origine de la séparation. Comment et d'où pourrait surgir la colère, la haine, la jalousie, l'attaque, la peur, s'il n'y avait aucune différence entre vous? En honorant votre petit moi, vous ouvrez large la porte à une incurable désolation. Quand, un à un, vous me donnerez la main en me reconnaissant en votre frère, vous entreprendrez le chemin du retour, enveloppé d'une seule vibration d'amour sans limite. La femme, la mère, celle qui donne la vie, est une simple image te permettant d'entrevoir l'attention constante avec laquelle tu dois maintenir à l'abri ce germe sacré que tu portes en toi. Que ta vigilance attentive et continue te permette de t'affranchir de toutes les illusions empoisonnées qui t'ont masqué cette vérité. Je vois chaque étape que tu franchis, si minime soit-elle, comme une ouverture qui te prépare à l'avance au prochain renversement du temps. Cette conversion, ou inversion de la pensée collective, commence à peine à donner des signes d'accomplissement. Quand, au nom de cette mutation collective, suffisamment de frères conscients seront rassemblés, même sans se connaître, cette inversion s'accomplira de façon surprenante. Cela suppose une forme de renversement du déséquilibre maintenu par l'adulation de l'individualité. Si tu ne regardes que toi, dans ton miroir à toi, sous prétexte que tu te choisis, toi, tu vivotes encore. Si tu ne regardes que ton frère, pour déguerpir en hâte et te donner quelques bonnes consciences, évitant de vider ta cave remplie de carcans qui traînent là depuis des siècles, tu végètes toujours. Par contre, si tu prends une saine distance et acceptes de produire un bilan honnête, vois si tes avoirs sont investis au compte bancaire géré par l'ego, ou si l'administration en est confiée à l'esprit divin, lui qui veille à la gestation du Christ en toi. Inévitablement, il te sera donné d'évaluer avec justesse tes pertes et tes gains et de tirer un ensemble de conclusions orientant ton action. Certes, si tu acceptes de relever cet incroyable défi en consentant de redescendre, accompagné, jusqu'au tréfonds des entrailles collectives, là, te seront divulgués le mensonge originel et l'inaltérable vérité qui t'interpelle. Cette trajectoire peut t'effrayer. C'est ce à quoi travaille l'ego. Cependant, si tu gardes ta main dans la mienne, que tu descendes avec moi et plusieurs de tes frères, uniquement dans l'état d'observateur, alors, sans voir ta paix troublée, tu participeras au grand renversement du mensonge en faveur de la vérité. Alors, vous serez envahis par une paix si profonde que votre rire abreuvera tous vos frères assoiffés en vue de la mutation hors du désordre vers l'ordre sans limite. Vient le temps des retrouvailles. Ton frère voit la porte qui s'ouvre devant lui. Dans le silence, il t'interpelle. La mort lui fait signe, mais il a peur de quitter sa cage. Crée un passage invisible et accompagne-le jusqu'à la marche suivante. Ta présence lui enseignera. Sans qu'il le sache, signe un traité de quiétude avec lui et vous vous instruirez réciproquement. Le repos de celle qui l'a précédé lui a créé un tel désert qu'une inquiétude sournoise le ronge en sa solitude. Haine d'une ferveur contenue et imperceptible. Marche par marche, il gravit des échelons insoupçonnés de lui-même pour des gestes de compassion qu'il a posés, loin dans le temps et à maintes reprises. Que la paix vous accompagne.